Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué, célébré, élevé. C'est Pierre qui a dit à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà, et nous avons faim et soif de notre Seigneur. Je crois que si nous sommes venus, c'est parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui nous donne ce pain quotidien dont nous avons tant besoin, et pas simplement notre portion dont nous avons besoin pour nos estomacs, mais notre portion spirituelle. Et nous croyons vraiment que dans sa grâce, le Seigneur nous l'accorde, qu'il y a quelque chose pour chacun d'entre nous ce soir. J'aimerais aborder ce thème qui sera en deux parties, donc la deuxième sera un autre mardi. C'est qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Alors vous allez me dire, la palisse, on aurait dit autant, n'est-ce pas ? Et on va ouvrir la parole de Dieu et voir un petit peu ces zones dans lesquelles nous avons besoin, eh bien, de ne pas baisser les bras, de parfois même prendre les armes, non pas pour faire la révolution dehors, mais pour pouvoir contrecarrer les œuvres et les plans de l'adversaire. Alors, nous faisons deux lectures. La première qui est dans 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 18, pardon. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Voilà ce que nous lisons, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et à la fin de cette lettre, 1 Timothée, chapitre 6, et au verset 12, voilà ce que nous lisons. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Quelqu'un a exprimé le fait de qu'on ne peut pas avoir de victoire sans combattre, il l'a dit en d'autres termes, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Les traces de lutte et de combat en tout genre sont nombreuses dans l'Écriture. L'Ancien Testament, lorsque nous le lisons, est relativement sanguinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Beaucoup de guerres, beaucoup de luttes. Beaucoup de sang. Entre la crucifixion de Jésus dans le Nouveau Testament, la persécution des premières églises, la lutte pour établir un enseignement saint et selon le cœur de Dieu, nous pouvons dire que le Nouveau Testament lui donne très largement le change, dans un autre registre. Alors sans avoir la pensée de sortir nos armes physiques avec tous les dégâts que ça peut faire, il me semble simplement que la Bible nous enseigne et nous dit que nous ne pourrons pas vivre sans aucune lutte, ici-bas. Ce n'est pas possible. Alors l'apôtre Paul va exhorter Timothée à combattre le bon combat. Lorsqu'on regarde à qui s'adresse cette exhortation, c'est-à-dire à Timothée, qui est Timothée ? Timothée, on le présente parfois, vous savez, comme le gentil petit serviteur, qui est un peu l'enfant, et c'est vrai que l'apôtre Paul l'appelle mon enfant, mais tous autant qu'on est, moi pour ma maman, je suis toujours son petit. Et pourtant maintenant, il y a 4 enfants à la maison, et je ne l'appelle pas tous les matins pour savoir ce que je vais mettre sur moi, ce que je vais faire, vous voyez ? Mais je suis toujours son enfant, et que je le veuille ou non, je suis son petit. Et je crois que c'est pareil pour beaucoup ici. Et Timothée était toujours le petit de l'apôtre Paul, de toute manière. Et pourtant, quand on voit les missions qui lui étaient confiées, ce n'était pas des missions pour un tout petit. C'était des missions faites pour quelqu'un à qui on avait besoin d'avoir entièrement confiance. Timothée, dans l'Écriture, est reconnu pour être quelqu'un qui est fidèle, non seulement au Seigneur, mais qui est aussi loyal envers les personnes avec qui il travaille. C'est quelqu'un qui a un certain vécu dans le travail missionnaire. Je rappelle qu'il a été de voyage avec l'apôtre Paul, les équipes missionnaires, et qu'il en a vu de toutes les couleurs. En quelque sorte, c'est quelqu'un de fiable. Et pourtant, l'apôtre Paul va lui dire et lui rappeler « Combat le bon combat ». Lui qui est un enseignant, Timothée, qui enseigne la parole de Dieu, lui dit « Combat le bon combat, saisis la vie éternelle ». Il lui dit « Garde la foi et garde une bonne conscience parce que fais attention, quelques-uns l'ont perdu en cours de route. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Timothée avait été laissé dans l'église d'Éphèse pour une mission qui n'était pas des plus évidentes. Il devait encourager, bien sûr, cette assemblée, il devait l'enseigner, mais il devait aussi veiller. Et pourtant, au milieu de toutes les recommandations que l'apôtre Paul va lui donner concernant sa mission, il va bien l'encadrer, vous avez remarqué, 1 Timothée chapitre 1er, et puis en fin de lettre, en lui disant « Combat, le bon combat ». La première allusion à laquelle il fait, c'est le fait de la vie éternelle, parce que c'est là notre premier appel à chacun d'entre nous. C'est de suivre notre Seigneur jusque dans l'éternité. Qui que nous soyons, que nous ayons pris notre engagement avec le Seigneur il y a simplement quelques instants, quelques jours, quelques semaines, ou que nous fassions partie... J'allais dire des personnes qui sont là, qui sont actives depuis des années et des années, ici ou un peu partout. C'est bien là, notre premier appel, c'est de passer l'éternité avec notre Seigneur. Et de ne pas rater cet appel-là. Notre principal défi au cours de la vie, et celui-ci, c'est de garder la foi jusqu'au bout. L'apôtre Paul rappellera que dans l'entourage connu de Timothée, certains ont fait naufrage par rapport à la foi, et l'apôtre Paul écrira même qu'en l'écrivant ou en en parlant, eh bien, il a encore des larmes qui coulent, parce qu'il pense à des personnes. Et ceux qui sont là, certainement, depuis des années, lorsque nous repensons à parfois des compagnons de travail, des gens qui étaient assis peut-être à côté de vous et qui, pour toutes sortes de raisons, à un moment donné, ont fait naufrage aussi par rapport à la foi. Eux qui avaient fait une si belle confession devant les fidèles. Et il y a une statistique, il y a quelque temps de cela, dans le journal Pentecôte, qui a paru du nombre de personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême, qui font une belle confession de foi devant l'Assemblée, qui disent « Voilà, j'ai rencontré le Seigneur, je le suis », et le nombre de personnes qui, dans les années qui suivent, laissent tomber leur foi et leur engagement. Et c'est une statistique non négligeable. On est vraiment sur des pourcentages importants. Comme quoi, c'est bien de donner sa vie au Seigneur. Mais c'est bien aussi de garder la foi et de la garder tout au long de notre vie. Et c'est là, on doit la garder comme un trésor qui est précieux pour chacun d'entre nous. Dans le naufrage de la foi, nous pourrions parler, par exemple, de la vie de Caïn dans Genèse chapitre 4. Vous vous souvenez qu'il est venu un jour devant le Seigneur pour apporter son offrande, qui n'a pas été agréée de Dieu. Alors ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de manière, est-ce qu'il fallait présenter d'un côté et de l'autre. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est que certainement dans la disposition de son cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la présentation de cette offrande, et non pas sur l'offrande en elle-même. Alors, lorsque le Seigneur l'a repris, il a été, la Bible nous dit, irrité et abattu. Et Dieu lui donne en quelque sorte l'occasion de se ressaisir, tout comme à certains moments le Seigneur nous avertit. Il nous met le doigt sur quelque chose dans notre vie, non pas pour nous détruire, non pas pour nous casser, non pas pour nous dire « tu vois, tu n'y arriveras jamais », mais pour nous dire « fais attention parce que c'est une faiblesse qui est peut-être sur ta vie, et cette faiblesse, si tu n'y prends pas garde, peut t'amener un jour au naufrage de la foi ». Alors Dieu lui donne cette occasion de se ressaisir et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alors il est dans ce moment où il est en quelque sorte sur la, vous savez, sur la balance, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, ça dépend de lui en réalité. Ça dépend de lui, ça dépend de sa décision. Et nous savons que Caïn a choisi de fermer ses oreilles au Seigneur. Il ne l'a pas écouté, il a fini par fuir et à devenir errant. Et je pense que ce n'est pas du tout le désir de notre cœur de finir par fuir, de devenir errant, de finir par être quelqu'un insensible à la voix de Dieu. Et nous voulons prêter attention à ce que le Seigneur simplement met sur notre cœur, et si un jour, eh bien, il nous dit quelque chose, quand bien même ça nous fasse réagir, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors quel type de combat est-ce que nous rencontrons? Dans notre jargon d'église, nous utilisons souvent l'expression « combat spirituel ». Cette expression, voilà, je pense que même ici, je ne suis pas habitué encore à tout le jargon qu'il peut peut-être y avoir ici en particulier, ou aux expressions régionales, mais enfin j'apprendrai tout ça avec le temps. Mais il y a quelque chose qui est là dans nos églises, on parle de combat spirituel. Alors, à mon sens, c'est un peu incomplet quand on utilise cette expression. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes composés esprit, âme et corps. Et que dans ces trois domaines, nous pouvons connaître des luttes et des combats. Nous en connaissons, bien sûr, spirituellement. La Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc oui, il y a bien, j'allais dire, un combat qui se joue dans les sphères célestes. Il y a bien un combat là qui se joue. Il y a des enjeux spirituels à certains moments, des enjeux spirituels sur des vies, sur des foyers, il y a des enjeux sur nos propres vies également, il y a des enjeux spirituels parfois dans l'assemblée qui sont là, il y a des combats à mener même en tant qu'assemblée. Je me souviens il y a quelques mois de cela en arrière, et c'est le Seigneur qui au travers de deux prophéties m'avait averti un dimanche matin. Donc il y avait une prophétie qui disait, voilà, prépare-toi parce qu'il va y avoir vraiment des luttes et un combat à mener. Et puis, vous savez, cette parole était assez générale, donc je ne l'avais pas prise à titre personnel. Je dis, ben voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un combat, ça aurait pu être n'importe lequel. Et puis, quelques jours plus tard, j'étais dans une pastorale, et mot pour mot, j'entends les mêmes paroles. Et là, je me suis dit, le seul dénominateur commun qu'il y avait entre le culte et cette pastorale-là, c'est moi. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que je tende l'oreille et que je comprenne ce que le Seigneur veut dire. Il y a un combat qui arrive. Et effectivement, il a fallu, dans un domaine particulier, mener un combat, et qui n'était pas du tout un combat contre des personnes, contre un état d'esprit ou quoi que ce soit, non, c'était spirituel. Et nous avons mené ce combat, tout simplement, et nous avons vu combien le Seigneur, combien aussi spirituellement, il y avait quelque chose qu'il fallait, un cap qu'il fallait passer. Combien spirituellement, il y avait quelque chose qui avait besoin de céder, une barrière, une résistance qui avait besoin de céder, et à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons vu la main du Seigneur agir davantage au milieu de nous. Nous avons vu des choses que nous ne voyons pas depuis quelque temps, parce que tout simplement, il y avait un combat dans lequel l'Église était emmenée à tout simplement à lutter et à venir adresser. Et donc, on est conscient qu'à certains moments, c'est pas... Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Et il y a des choses que... On a besoin de réaliser que c'est pas l'un, c'est, non, c'est spirituel, tout simplement. Mais le rôle du malin, c'est de nous reprendre sous sa coupe par tous les moyens, au travers de tentations, au travers de peaux de banane qu'il va mettre sur notre route, au travers du découragement, au travers de pensées qui sont tordues. Il y a également un combat dans notre être intérieur, dans notre âme. Lorsque, à cause des circonstances de la vie, parfois des conséquences du péché dans le monde, de la dureté du cœur de l'homme, nous sommes blessés, nous sommes parfois déçus, nous sommes trahis, nous pouvons être calomniés, et j'en passe. Ce sont les blessures de l'âme. Et le malin cherchera toujours à nous conduire et à nous garder dans une certaine amertume, dans la culture du rejet, dans le fatalisme également. Et il y a là donc un combat au niveau de notre âme. Et si nous voulons être honnêtes les uns et les autres, la plupart des combats que nous menons, eh bien, ils sont par rapport à notre personne, afin de garder le cap, afin justement de veiller, afin d'avancer dans les voies de Dieu. On passe beaucoup de temps à se débattre avec nous-mêmes. Certains ont beaucoup de mal à pouvoir accepter leur passé, qui ils sont, d'où elles viennent. On met parfois des années à bien se sentir, même dans leur peau. Et nous passons beaucoup de temps comme ça, à lutter contre nous-mêmes. Nous luttons également pour des avancées dans notre foi. Mais nous croyons que le Seigneur est fidèle et que dans ces combats de l'âme, le Seigneur veut également triompher parce qu'il a donné sa vie à la croix pour cela. Nous le croyons de tout notre cœur. Et puis il y a ces combats physiques contre parfois la maladie, contre l'usure du corps, contre pour certains, et c'est bien sûr d'actualité, vous le savez, vous tous qui vous tenez informés, contre pour certains de nos frères et sœurs dans la foi, contre la persécution parfois. Ce n'est pas juste une persécution, on m'a dit quelque chose d'un peu dur à la fin d'une réunion, alors c'est... Non, c'est physique. Lorsque vous êtes battu, lorsque vous perdez votre emploi parce que vous êtes croyant, lorsque vous êtes rejeté par votre famille parce que vous êtes croyant, lorsque certains sont torturés, où on leur demande de renier leur foi alors qu'il y a un pistolet sur la tempe, ça c'est physique. C'est physique. Le malin veut se servir aussi de ces moments de faiblesse physique pour nous détourner de la vérité et nous entraîner dans la culpabilité. Il nous arrive bien entendu d'être régulièrement auprès de personnes qui sont dans l'épreuve de la maladie et parfois dans des stades avancés de la maladie. Et il arrive très souvent que ces personnes se culpabilisent de ne plus pouvoir avoir la force, l'attention de lire la parole, par exemple, comme elle le pouvait auparavant, de ne plus pouvoir prier comme elle le pouvait auparavant. Et ô combien c'est important de leur rappeler que le Seigneur les aime toujours telles qu'elles sont. Ô combien c'est important, je me rappelle d'une mamie de 95 ans, dans une maison de retraite, que je suis allé voir régulièrement, elle et d'autres. Et un jour, cette mamie était dans cette culpabilité, elle me disait, vous savez, j'étais une femme de prière auparavant. Je priais pour les gens, j'intercédais pour les gens. Et maintenant, je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Alors évidemment, moi ça me faisait un petit peu sourire dans le sens où je me disais, mais c'est un peu normal, à 95 ans, que les forces vous abandonnent. C'est normal, c'est une loi de la vie. Mais cette personne était vraiment dans la culpabilité. Et j'ai dû lui expliquer simplement que le Seigneur l'aime autant. Et que si elle ne peut plus intercéder une demi-heure et une heure comme elle le faisait avant, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes ou 1 minute, le Seigneur entend sa prière. Il entend sa prière. Combien c'est beau de voir ça. Et d'ailleurs, quand vous passiez quelques moments dans la prière avec cette personne, je peux vous dire qu'il y avait la présence de Dieu. Ça vous faisait du bien. Parce que cette femme était effectivement une femme de prière. Alors, quelle solution pour éviter le naufrage de la foi par ce qu'on pourrait appeler dessèchement spirituel? L'ensemble de nos combats peut à certains moments, vous savez, peser dans l'embarcation de notre vie, à tel point que la barque commence à prendre l'eau. Ça vous rappelle des choses, ça, dans la parole de Dieu. Mais c'est vrai aussi dans nos vies, c'est que on résiste, on est fort, jusqu'au moment où il y a la goutte qui fait déborder le vase. Et on est tous pareils, on a tous nos limites, quel que soit le domaine. Vous avez vos limites physiques, vous avez vos limites dans les douleurs de l'âme, vous avez vos limites spirituelles, mais nous connaissons un Dieu qui est sans limite, lui, alléluia. Je me souviens de ma première permanence dans le travail dans lequel j'étais, dans le travail séculier, première permanence que j'ai faite dans le domaine informatique, la première, dans la semaine, donc j'étais sorti plusieurs fois, et puis le week-end arrivant. Alors le week-end c'est le mieux parce que c'est là où vous pouvez avoir le moins de ressources pour vous aider. Et j'arrive sur une intervention et je passe 20 heures d'affilée sur site, avec seulement un kebab dans le ventre. 20 heures pour une panne, un problème qu'il fallait résoudre. Je rentre, je dors quelques heures et je repars sur une autre panne, 9 heures d'affilée sur le site. À un moment donné, la permanence, alors que je rentre chez moi, continue d'appeler. Et là, je leur ai dit, écoutez, première permanence, ça faisait quelques mois que j'étais dans cette société, je leur ai dit, écoutez, je vais dormir. Et j'ai raccroché. Ils ont tous compris, il n'y a pas eu de problème. On a tous nos limites à un moment donné. On a tous nos limites. Au temps d'Élie, vous vous souvenez qu'il y a eu, durant 3 années, la pluie a cessé de tomber. C'est Élie qui a prié, la pluie a cessé de tomber. Le résultat, quel est le résultat d'une terre qui est sans eau? Que peut produire une terre qui est sans eau, qui est asséchée, qui est même craquelée? Une terre sans eau, c'est une terre qui est morte. C'est un vrai désert à un moment donné. Et une terre qui ne produit pas ne peut qu'engendrer derrière la famine et même la désolation. Alors la terre a besoin d'être arrosée. Et sans cesse, alors en ce moment, voilà, il y a pluie, soleil, la terre est contente. Nous, on préfère dans cette période soleil et soleil. Mais bon, écoutez, on prend ce qui vient. Eh bien, de même, le cœur de l'homme, notre cœur, a besoin d'être vivifié par la parole de Dieu, bien sûr, par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est vital pour le croyant. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de ressentir même son approbation dans notre vie. C'est vital pour nous. La terre de notre cœur a besoin d'être arrosée. Et lorsqu'elle cesse d'être arrosée, mes amis, nous desséchons. Et lorsque nous desséchons, cela produit cette famine spirituelle dans notre cœur. Souvenons-nous de la dédicace du temple au temps donc de Salomon, où nous est dit que la gloire de l'Éternel a rempli la maison. N'est-ce pas ce que nous voulons vivre ici? La gloire de l'Éternel, alléluia, qui descend au milieu de ses enfants. Bien sûr que Dieu veut résider en nous, et il réside en nous lorsque nous lui donnons notre cœur. C'est un peu ce que l'apôtre Paul va appeler envers Timothée, vous savez, c'est cette belle confession de foi, ces beaux pas qui ont été faits avec le Seigneur, cette expérience qui est authentique. Merci Seigneur pour tout cela. Et puis quelques versets plus loin de 2 Chroniques chapitre 7, alors que nous voyons que la gloire de l'Éternel remplit la maison, c'est extraordinaire. En même temps, le Seigneur connaît le cœur de l'homme, parce qu'il a écrit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, lorsqu'en quelque sorte les yeux de l'Éternel ne voudront plus voir, lorsque les oreilles ne voudront plus entendre, parce que le peuple s'est détourné du Seigneur, il a dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Voyez-vous, en même temps que la gloire de l'Éternel descend dans sa maison, Dieu connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme, il nous connaît, chacun d'entre nous. Et il sait que très rapidement, les uns comme les autres, et tout va tellement vite, nous pouvons glisser, nous pouvons déraper. Alors sans vivre non plus dans l'humiliation permanente, parce que je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut non plus, il y a des moments nécessaires à un retour vers Dieu de tout notre cœur. Lorsque la terre est desséchée, lorsque la terre manque d'eau, la terre de notre cœur manque d'eau, il y a un nécessaire retour vers le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément fait d'horribles choses. Ça veut tout simplement dire que nous avons besoin de renforcer notre communion, que peut-être Nous sommes laissés aller à ce que nous connaissions, à ce que nous savions. Nous sommes laissés aller au train de cette vie, tout simplement. Et sans s'en rendre compte, nous avons perdu notre élan petit à petit, au point où un jour, lorsqu'on se réveille, on se dit « mais je suis au point mort, je n'avance plus, je tourne en rond dans la vie ». C'est un moment où nous pouvons dire « je reviens vers toi, Seigneur ». Je reviens vers toi de tout mon cœur. Et je sais, Seigneur, que tu m'aideras à retrouver tes voies, à retrouver le zèle qui était le mien. Tu guériras mon cœur, tu guériras ma pensée, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions voir et que nous puissions vraiment prendre conscience que le ciel est ouvert sur ses enfants. Lors de la dédicace du temple, la gloire, nous l'avons dit, a rempli la maison. Quand Jésus a été baptisé, il nous est dit que les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, avec cette voix qui se fait entendre des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Lorsque Jésus a parlé avec Nathanaël, vous vous en souvenez, il lui a dit, « Eh bien, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. » Ouvert, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Jésus, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous a aussi ouvert la voie pour nous conduire au Père. La Bible nous dit que le voile a été déchiré. Alléluia. Et puis, lorsque Pierre donc a eu cette vision dans Acte 10 concernant l'évangile répandu dans les nations non juives, la Bible nous dit quoi ? Qu'il vit le ciel ouvert à nouveau. Il vit le ciel ouvert. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous. Le désir de Dieu n'est pas de nous laisser dans le dessèchement spirituel, n'est pas de nous laisser devant un combat et une lutte dans lesquels nous ne pourrons pas en voir le bout. Mais il désire nous accorder la provision dont nous avons besoin pour chaque jour, ce fameux pain quotidien, ces forces dont nous avons besoin. La Bible nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive tout simplement. Une femme cananéenne l'avait compris. Elle est venue à Jésus, vous vous en souvenez, on est dans Matthieu 15, concernant sa fille qui était tourmentée. Et Jésus lui dit, « Eh bien, écoute, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle a dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui a dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même. » La Bible nous dit que sa fille fut guérie. Elle était prête à se contenter des miettes du ciel plutôt que de tout le reste sur la terre qui, de toute manière, n'avait rien pu faire pour elle. Elle voulait cela. Elle avait soif de ce Seigneur et de ce Sauveur. Alors, quelle foi dans la vie de cette personne ? Vous vous souvenez de ces esclaves ? Africains qui, au XVIIe siècle, ont été déportés, emmenés dans les champs de coton. On a séparé plusieurs d'entre eux, parfois, à certains endroits, on a séparé mari et femme, on a séparé les connaissances pour pas qu'il y ait de connivence, pour pas qu'il y ait d'évasion. Et on les a fait travailler du matin au soir. Un jour, quelques serviteurs de Dieu ont demandé s'ils pouvaient prêcher la parole à ces gens-là. Et les maîtres se sont dit que cela pourrait certainement contribuer à la paix sociale parmi ces gens-là, et donc éviter des rébellions, éviter des fuites, etc., et qu'ils se tiendraient tranquilles. Alors ils ont ouvert la porte à l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alléluia, merci Seigneur ! Ils ne se rendent pas compte. Ces gens-là ont été abreuvés à la source de Dieu, qui leur a communiqué les forces nécessaires, eux qui ont été déracinés, eux à qui on a tout enlevé, ont commencé à prendre espoir dans le Seigneur. Et cela a inspiré dans leur cœur des chants nouveaux. Ces chants que l'on chante encore un peu partout sur la planète, qui sont connus, tous ces négros spirituels, tous ces chants gospel qui ont été inspirés, et d'ailleurs, ils nous saisissent toujours autant quand on sait dans quelles conditions ils ont été composés. Ces gens-là ont été abreuvés à la source de la vie. Et ils sont un tel exemple de foi pour chacun d'entre nous. Alors, si nous sommes dans certains types de combats, quels qu'ils soient, il y a peut-être des résistances spirituelles dans vos vies en ce moment. Il y a peut-être des combats que vous avez besoin de mener afin vraiment de voir la victoire du Seigneur. Il y a peut-être des combats au niveau de votre âme, des choses qui ont besoin d'être adressées auprès du Seigneur. Peut-être que en ce moment, c'est compliqué, que ce soit dans votre environnement, que ce soit dans la vie tout court. Il y a peut-être un tas de questions, d'interrogations. Mes amis, je vous inviterai à ne pas baisser les bras. Je vous inviterai à vraiment lever les yeux vers le Seigneur. Je vous inviterai simplement à dire, eh bien, ces choses-là, ce n'est pas la fatalité. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, c'est possible d'avancer. Par la grâce de Dieu, c'est possible de voir la victoire. Par la grâce de Dieu, c'est possible vraiment qu'il y ait dans vos vies un chant nouveau, qu'il y ait une parole nouvelle, qu'il y ait un élan nouveau et que les armes ne soient pas laissées à terre, mais qu'elles soient reprises par la grâce de Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne peux pas, mais avec ta force, Seigneur, j'irai. Alléluia. Merci Seigneur pour tout cela. La Bible nous exhorte et dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons ces paroles. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Un peu plus loin, nous trouvons celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Encore un peu plus loin, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit encore, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et encore, chapitre 21 de l'Apocalypse. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Est-ce que ce n'est pas encourageant de voir tout ce qui est de notre héritage dans le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas encourageant de connaître celui qui a vaincu les dominations et les autorités? Est-ce que ce n'est pas encourageant de connaître celui qui a vécu dans une condition semblable à la nôtre? Il a connu la souffrance de la croix. La Bible nous dit qu'il a même éprouvé des angoisses dans le jardin de Gethsémané. Il a prononcé « si cette coupe pouvait s'éloigner de moi ». Et moi, il me semble que dans certains domaines de nos vies, parfois, on aimerait dire « mais je ne veux pas passer par là. Je n'ai pas envie de cette épreuve. Je n'ai pas... Toutefois, non pas ce que tu veux. » Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur, pardon. Quel que soit le chemin que nous empruntons, soyons conscients que Jésus est là. Celui qui a vaincu à la croix est là. Que nous puissions ne pas nous décourager dans nos combats, quels qu'ils soient, en soi en tant qu'individu, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau de l'Assemblée, ne nous décourageons pas dans nos combats, parce que Christ est là. Christ est présent. Il est là et il marche au milieu de ses enfants. Il marche avec ses enfants. Il trace un chemin pour chacun de nous, d'entre nous. Nous prions le Seigneur ce soir, si vous le voulez bien. Et nous voulons ensemble saisir que le ciel est ouvert, que le Seigneur est un Dieu de victoire. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Oui, nous voulons combattre le bon combat et ne pas l'abandonner, Seigneur. Nous ne voulons pas que nos vies dessèchent. Nous ne voulons pas faire partie de la liste des naufragés de la foi. Et nous voulons faire partie de la liste des élus, Seigneur. De ceux qui marchent avec toi. De ceux qui gardent le cœur attaché au tien. de ce Seigneur qui ne renonce pas parce qu'ils savent que leur salut est en toi et avec toi, Seigneur. Alors, Seigneur, merci parce que nos montagnes ne t'impressionnent pas, Seigneur. Et nous savons que tu nous donnes la capacité de les traverser, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es là auprès de nous et avec nous, Seigneur Jésus, ce soir. Je veux particulièrement te prier pour celles et ceux qui ont besoin de voir ta main, Seigneur, dans leur vie. Ceux qui peut-être se sont découragés dans certains combats de leur vie, viens leur secours ce soir, je t'en prie. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de déposer des choses simplement à la croix. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de faire des avancées, des pas spirituellement, des décisions importantes avec toi, afin que l'ennemi lâche prise dans leur vie. Ceux qui luttent au quotidien dans des conditions difficiles, Seigneur Jésus, tu le sais. Tu le sais, et tu es leur fidèle berger, Seigneur. Viens leur secours ce soir. Alléluia. Pendant que nos yeux restent fermés, et alors que la parole du Seigneur a été apportée, j'aimerais vraiment qu'on puisse laisser la place à notre Seigneur pour pouvoir agir aussi dans notre cœur. Et si quelqu'un vraiment, et nous le savons les uns les autres, si nous avons besoin de dire « oui, j'ai besoin de combattre le bon combat », de reprendre en quelque sorte le combat dans certains domaines. J'ai abandonné, peut-être je me suis découragé, peut-être que le terrain de mon cœur est un terrain qui est en train de s'assécher et je sais que c'est pas bon pour ma vie. Je veux retourner à la source de tout mon cœur, Seigneur, afin que la gloire du Seigneur de nouveau resplendisse dans mon être entier, que je puisse de nouveau prendre conscience que le ciel est ouvert. Si c'est votre cas ce soir, je vous inviterai à vous lever à votre place, j'aimerais prier pour vous ce soir, que ce soit un temps de victoire pour vous, que ce soit pas un temps simplement où on prend des informations supplémentaires, mais que ce soir nous voyons la main du Seigneur agir, qu'il y ait une différence qui soit faite dans les cœurs, quels que soient vos domaines, vous le savez, le Seigneur le sait, ça c'est le plus important, et ce combat que vous menez, c'est pas un combat que vous menez seul, vous le menez avec le Seigneur, avec celui qui a tout accompli sur la croix, alors si c'est votre cas, eh bien levez-vous simplement, commencez à prier le Seigneur, à nos mais justement ces choses qui sont dans lesquelles vous avez besoin vraiment ce soir encore de prendre position peut-être, de dire Seigneur, je désire encore eh bien, être à nouveau eh bien, plongé en toi Seigneur, je refuse d'être asséché, je ne veux pas faire partie des naufragés de la foi Seigneur, mais je veux faire partie de ceux qui se tiennent debout. Voilà, commencez à nommer ces choses sur votre vie, invoquez le nom du Seigneur simplement sur vous et croyez qu'il vient à votre secours. Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais dans la vie de ces bien-aimés qui crient vers toi ce soir, qui viennent à toi concernant leurs besoins, quels qu'ils soient, qu'ils soient physiques, qu'ils soient dans le domaine de l'âme, qu'ils soient spirituels, quelle que soit la hauteur, Seigneur, des montagnes, quelle que soit la force avec laquelle parfois l'ennemi s'acharne sur nos vies, nous voulons croire, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant et qu'à un moment donné, il lâche prise sur nos vies, il lâche prise sur nos foyers, il lâche prise au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute principauté, Seigneur. Seigneur, nous célébrons ta victoire à la croix et nous te prions que ce soir, Seigneur, dans ce lieu, des victoires soient remportées, dans les vies, dans les cœurs, qu'il y ait une différence dans les jours qui viennent, Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci d'arroser ces vies d'une huile fraîche, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Nous saisissons les voix de Dieu. Nous prions le Seigneur si quelques-uns veulent prier le Seigneur aussi pour demain.